Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Nous nous retrouvons pour parler de bande dessinée, bien entendu, comme nous en avons le plaisir de la lecture, bien entendu, mais le plaisir aussi du partage, ça va avec. Et aujourd'hui, nous allons partager la lecture d'un album paru chez Dargo, d'un auteur que nous apprécions tout particulièrement. Et vous savez que oui, effectivement, nous parlons assez régulièrement des auteurs que nous aimons, parce que on ne transmet bien que ce que l'on aime, il me semble, hein. Surtout, il s'agit de Pierre-Henri Gaumond, une parution Dargo, dont avec un premier tome de la série Slava, qui sera normalement décliné en 3 tomes. Et ce premier s'appelle « Après la chute ». Alors, peut-être quelques mots pour commencer sur ce fameux Pierre-Henri Gaumond.
C'est quelqu'un qu'on a découvert avec « Les nuits de Saturne », si je ne m'abuse.
Il me semble, oui.
Oui. Qui était déjà un univers singulier avec une fin qui incitait à relire l'histoire sous un autre œil. On l'a suivi avec « Pereira Prétend », où on retrouvait son univers graphique tel qu'il est maintenant, avec une prédilection pour les rébus dans ses phylactères.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu un gros changement entre les Nuits
oui,
de Saturne
oui,
hein,
oui,
et la suite.
À croire que ce n'était pas le même artiste. Le portrait d'un petit fonctionnaire sous la dictature et son espèce de destinée labyrinthique, plus il essaie de s'échapper d'un destin funeste, plus il est enfermé dans son devenir dramatique. Un album qui a suivi, qu'on avait adoré, qui était à la fois émouvant, émouvant, dur, noir et en même temps symbole d'espérance, c'était Malaterre.
Il y a toujours de l'humour en fait, hein, même quand oui. Il part de choses difficiles.
Malaterre, c'était l'histoire d'un individu, un espèce d'énergumène qui partait en Afrique pour prendre la tête d'une exploitation forestière dont il avait hérité. Évidemment, il n'avait aucune des compétences. Narrativement, c'était audacieux puisque ça commençait par sa mort. La scène de sa mort, c'était une sorte de grand flashback. Ce personnage qui emmenait une partie de sa famille, une partie de ses enfants. Ces enfants qui étaient à la fois déracinés, coupés de la fratrie et qui en même temps découvraient un pays merveilleux, des senteurs, qui se faisaient des amis. C'était à la fois un arrachement et puis une révélation, des sentiments mélangés. Et dernièrement, la fuite du cerveau qui, partant d'un fait divers réel, c'est-à-dire le vol du cerveau d'Einstein, procède à un portrait au vitriol de l'Amérique complotiste des années 50, paranoïaque. Sur un mode de cavalcade échevelée et matinée d'humour très grinçant, rehaussé par un dessin très percutant, très incisif, se disant « j'ai l'impression de faire le portrait de Slava ».
Parce qu'effectivement, Pierre-Henri Gaumond aime bien les situations comme ça, un peu équivoques, avec des personnages étranges, pas forcément déjantés, mais enfin qui ont une personnalité très marquée en tout cas.
Coïncidence, je me permets au moment de l'enregistrement de le faire savoir. Au moment où nous enregistrons, donc, Mikhail Gorbatchev, le dernier président de l'Union soviétique, vient de mourir. Il a été enterré quasiment à la sauvette. C'est un personnage qui est en creux dans cette histoire Slava, parce que ce qu'on nous raconte dans Slava, c'est la Russie de Boris Yeltsin. C'est-à-dire, c'est la Russie où les richesses de l'Union soviétique vont être pillées par des petits et des gros escrocs. À l'occasion des funérailles de Gorbatchev, on s'aperçoit que celui qui a été le liquidateur, sans le vouloir, de l'Union soviétique est profondément haï. Enfin, en tout cas, on est entre l'indifférence et la haine pure dans la Russie de Poutine vis-à-vis de Gorbatchev. Mais c'est vrai que si Slava existe, et ce qui est décrit dans cet album s'est vraiment déroulé, c'est parce que Gorbatchev a voulu réformer l'Union soviétique et qu'il a en fait précipité sa chute.
Alors, on peut préciser au passage que Pierre-Henri Gaumond n'a pas écrit, évidemment, avant-hier cet ouvrage. Il l'a même écrit avant le début du conflit en Ukraine. Mais la résonance, du coup, de cette trilogie n'en est que plus forte. Vous évoquez Gorbatchev, Thierry. J'ai cru comprendre d'ailleurs qu'il y avait quelques proximités avec cet homme dans votre famille.
Oui, je me permets une digression, c'est que mon frère avait épousé à l'occasion d'un voyage en Union soviétique son interprète, Ina Semenova, qui ensuite est venue en Occident, qui a fait une très belle carrière en tant qu'interprète traductrice. Et quand Gorbatchev et Raïssa Gorbatchev venaient en France, c'était elle l'interprète du couple. Et notamment, je me souviens très bien d'avoir vu à la télévision Ina faire la traduction pour le Gorbatchev de ce que disait le président Mitterrand. Donc c'est un petit souvenir personnel, familial, émouvant. Au passage.
Donc de multiples échos à ce récit, Slava, après la chute, donc on est dans la succession immédiate de la chute de l'URSS dans les montagnes du Caucase.
Oui, alors est-ce que ce qui nous est montré pourrait survenir dans de nombreux pays, la fin d'une dictature, le chaos qui s'ensuit, sans doute, mais en même temps, la situation de départ où on voit ces personnages au milieu de nulle part, dans une immensité de la nature, et dans un, j'ai failli dire un palais, dans une construction immense, immense pièce, décorum, etc. Ça rappelle, alors ce qui est typique des dictatures, il faut bien le dire, mais des régimes autoritaires, c'est le goût pour le colossal. Et ces deux personnages, en fait, ils sont très différents. C'est, il y a Slava, qui est un peu artiste, un peu dilettante, un peu paumée, qui est tombé sous la coupe ou qui essaie de tirer parti de l'esprit d'initiative, entre guillemets, de ce personnage dont vous allez me rappeler le prénom parce que j'ai un trou de mémoire.
Lavrine, si je me trompe.
Alors, c'est le pur escroc. Quand ils sont en train de parcourir les pièces de cette immense construction, Lavrine dit « Ah, ça se vend facilement. Tiens, on va partir avec... Oh, il y a des panneaux de bois rares. Ça, on n'aura pas de mal à les vendre. » Un pillard de petite envergure parce que il ressemble plus dans sa démarche à un antiquaire pris de frénésie. Mais il est à l'image de tous ces personnages douteux, voire répugnants, même, osons le mot, qui se sont appropriés les richesses de l'Union soviétique, dont les richesses de la collectivité, le bien public, qui en ont fait de l'argent, qui sont aujourd'hui certains des oligarques à la solde de Poutine.
Mais Lavrine n'est qu'un tout petit escroc. Il n'a rien à voir avec les gros requins qui rôdent aussi par là.
Voilà, les gros requins, on va les voir émerger au fur et à mesure de l'histoire. Et eux, ils font vraiment peur. Slava, c'est un... Est-ce que je dirais que c'est un polar ? C'est un roman noir, dans le sens où le roman noir, traditionnellement, il y a une intrigue, il y a des péripéties dramatiques, mais c'est pour éclairer un moment d'évolution de la société, et c'est exactement ça. C'est passionnant, Slava, parce que c'est un sujet que, alors, sauf erreur de ma part, je ne l'avais jamais vu traité en bande dessinée. Cette période très précise de la Russie post-soviétique, la Russie de ce qui va devenir la Russie de Boris Yeltsin, cet effondrement moral, ce pillage généralisé. Je crois qu'en Occident, je pense pas qu'on ait réalisé à quel point ce pays était tombé en quenouille avec la chute du mur de Berlin.
Oui, et puis on est tous surpris aujourd'hui de ce qui se passe, du coup, hein, parce qu'on avait mis finalement la Russie de côté, j'ai l'impression.
Quand on dit tout ça, on a l'impression que c'est un documentaire, un livre à thèse. C'est un livre très divertissant, paradoxalement, parce que ce qui est décrit est très noir, fait même assez désespérant. Il y a des péripéties extrêmement violentes.
Oui, c'est un livre vif aussi, j'aurais envie de dire, pas seulement noir.
Voilà, narrativement, c'est très vif. Le dessin, j'y faisais allusion au début de l'émission pour les autres ouvrages de Pierre-Henri Gaumont, percutant, incisif, mordant. Et puis, il y a un humour typique de Pierre-Henri Gaumont, qui est désespéré lui aussi, mais qui est très particulier, très, très personnel. Tout ça fait un mélange qui est assez fascinant. Et je suis content que ce soit une trilogie, ça veut dire qu'il y aura encore deux aussi bien.
Oui, vous les attendez. Effectivement, il y a un humour qui grince, mais qui vient nous permettre de respirer, de nous faire plus que sourire même par moment. Il y a un personnage dont on n'a pas parlé, Thierry, c'est la fille.
Ah, c'est la fille.
Nina.
Nina, alors c'est un personnage absolument passionnant, parce qu'au cours de leur pérégrination dans les montagnes du Caucase, ils vont se retrouver attaqués par des gens puissamment armés, parce que le mal et le danger rôdent partout. Et Nina va en quelque sorte les sauver. Elle a encore une forme d'idéalisme, alors d'idéalisme teinté de réalisme. C'est un personnage, comme beaucoup d'ex-soviétiques, va essayer de survivre et de tirer son épingle du jeu, mais sans... Alors, en frayant avec des personnages très peu recommandables, mais en essayant de garder une ligne... J'ai failli dire une ligne pure. Essayant de rester fidèle à un certain nombre de valeurs. Et Dieu sait si c'est difficile dans ce genre de situation. Je ne veux surtout pas trop en dire dans ce qui se déroule dans ce volume 1. Je radote, mais c'est mon péché mignon de dévoiler des choses que je ne devrais pas dévoiler.
Oui, on va voir comment s'en sortent ces protagonistes ou ne s'en sortent pas. Hein. Ça dépend des destins de chacun.
Vous en avez déjà dit beaucoup.
Non, mais j'ai nommé personne.
Je plaisante.
Mais enfin, il y en a qu'on va retrouver évidemment dans les tomes suivants, ça c'est certain. Là, c'est le premier tome donc, de Slava de Pierre-Henri Gaumont, paru chez Dargaud, tome numéro 1, après la chute, que l'on vous conseille vivement. Et puis, si vous êtes suffisamment rapide chez votre libraire préféré, pour ne pas mentionner BD Fug Café, hein, un petit réseau de librairies, il y a, pour ceux qui arrivent en premier lieu, un super portfolio avec plein de très très beaux dessins de Pierre-Henri Gaumont. Ça vaut le détour. J'espère que vous aurez la chance de l'avoir entre les mains. Je vous remercie beaucoup, Thierry, de cette présentation passionnante. Et puis, on sera pas dans la même ambiance, mais il y a des similitudes quand même dans le prochain album que nous allons commenter pour vous. J'espère que vous serez à nouveau des nôtres. À bientôt.